Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, le débat des grandes voix du vendredi avec ce soir à mes côtés l'enseignante et essayiste Barbara Lefèvre. Bonsoir Barbara.
Bonsoir.
Elsa Conessa, bonsoir Elsa, bonsoir. Rédactrice en chef aux Échos. Et puis Guillaume Tabar, bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Alors ce soir on parle évidemment de ce débat sur la violence policière après cette vidéo de passage à tabac d'un producteur noir par trois policiers qui suscite une immense émotion. Sauf que maintenant la crise devient politique également. La majorité se divise avec en toile de fond l'article 24 qui cristallise la fronde. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est accusé de mettre de l'huile sur le feu. Jean Castex a déclenché la colère de Richard Ferrand, patron de l'Assemblée nationale, en annonçant cette fameuse commission extérieure pour réécrire cet article 24. Alors ce soir, le Premier ministre fait marche arrière, mais le mal est fait. Écoutez par exemple Hugues Ranson, le vice-président LREM de l'Assemblée nationale.
On est en plein débat parlementaire sur un texte et je crois qu'il n'appartient pas à une commission administrative de contourner l'activité des représentants du peuple et les parlementaires, fussent-ils de la majorité, veulent remplir leur mission de représentants du peuple.
Deux crises coup sur coup. Politique, sécurité. Sur la première d'abord, la crise institutionnelle, Guillaume Tabar, est-ce que c'est une faute politique de la part de Jean Castex?
Alors, on a l'impression que l'exécutif a vraiment joué un épisode des branquignoles. Parce que se tirer d'un mauvais pas en mettant en place une commission, c'est une des ficelles les plus classiques, les plus usées, les plus pratiquées de la vie politique. Mais en général, quand on fait ça, bon, ça ne trompe personne, sauf éventuellement celui à qui on confie la mission. Mais en général, le but d'une commission, c'est de se débarrasser d'un problème, pas d'en créer un autre.
Oui.
C'est d'apaiser le jeu, pas de remettre de l'huile sur le feu. Or là, en créant cette commission, ils ont précisément remis de l'huile sur le feu. Pour une raison toute simple, c'est que il. Alors, qui est le il? Est-ce que c'est Emmanuel Macron? Est-ce que c'est Jean Castex? Est-ce que c'est Gérald Darmanin? En tout cas, c'est l'exécutif dans son ensemble. A oublié ses leçons de première
parce
année
d'instruction
civique.
Parce que c'est un délit de démocratie. Hein, c'est confier une commission extérieure le droit, en quelque sorte, de réécrire un article qui est normalement écrit par le Sénat ou par l'Assemblée nationale. Bah, d'ailleurs, le Premier ministre a réussi l'incroyable fait politique de se mettre à dos toute sa majorité, le patron de l'Assemblée nationale et la Chambre du Sénat. Elsa connaît ça.
Oui, juste par rapport à ce que vous disiez à l'instant, évidemment, c'est une tendance dans ce gouvernement à vouloir contourner le Parlement, mais il y a aussi une forme d'hypocrisie de la part des députés. Je veux dire, chaque année, quand on vote le budget, il y a des articles de loi sur des mesures fiscales qui sont écrites intégralement par des fédérations professionnelles. Enfin, c'est quelque chose qui est courant. Les services de l'Assemblée l'admettent assez volontiers, d'ailleurs, parce qu'il y a des expertises sur certains domaines que les services de l'Assemblée n'ont pas, parce que il y a plus de moyens, c'est plus rapide, c'est pas toujours mal écrit d'ailleurs, et puis surtout c'est voté après, les textes sont votés. Mais le fait qu'une commission se réunisse pour proposer une réécriture de l'article, on peut en discuter, mais en soi, ça me paraît pas être quelque chose d'absolument révolutionnaire. Moi.
Barbara Lefèvre.
Le choix de celui qui allait diriger cette commission, c'était aussi une façon d'organiser l'enterrement de cet article 24, puisque c'est un des coprésidents de la CNCDH qui avait signifié son hostilité et qui considérait que les droits et libertés fondamentales avaient été bafoués dans cet article 23 et même d'ailleurs 24 pardon, et d'ailleurs même plus largement dans le reste du texte. Donc c'est une façon un petit peu à l'ancienne hein, pour un régime qui se prétend être tellement novateur. Ce sont des petites manœuvres politiciennes très classiques. Mais hélas, qui ne fonctionne plus pour enterrer un article. Et on sait que Gérald Darmanin, lui, continue d'insister pour que son article 24 se maintienne. Donc là, on va avoir au plus haut niveau de l'exécutif des conflits qui peuvent, à un moment ou à un autre, se conclure par la démission ou l'exclusion du gouvernement d'un des membres si cette question de l'article 24 n'est pas résolue rapidement.
Oui, et pour terminer sur Jean Castex, on se souvient qu'en arrivant, il avait quand même dit « je veux être le leader de la majorité ». Il a réussi à se mettre tout le monde à l'eau. Alors, ça, je ne sais pas si ça laissera des traces, mais en tout cas, ça crée quand même une espèce de précédent, Guillaume Tabar.
Oui, puis c'est le révélateur. C'est-à-dire que, bien sûr, cet épisode-là, il est embêtant parce que c'est un vrai raté politico-institutionnel. Mais si la crise a pris une telle ampleur, si de Richard Ferrand au président de groupe, au président de commission, au député...
Président du Sénat, Gérard
président
Larcher
du Sénat,
aussi.
Oui, ça, le président du Sénat, il est dans l'opposition. Bon, justement, c'est aussi l'un des problèmes, c'est qu'habituellement, quand on crée une polémique avec l'opposition, j'allais dire, on est dans le jeu normal, et quelque part, un pouvoir a besoin aussi de se confronter à une opposition. Mais lorsque l'on fait sauter la grenade dans son propre camp, là, c'est vraiment raté.
D'autant plus qu'on avait demandé aux députés La République En Marche de voter cet article 24, alors que certains, même beaucoup, y étaient hostiles, avaient demandé des réécritures. On leur avait dit oui, mais enfin, votez-le quand même. Ils l'ont voté. Ensuite, on leur dit non, mais finalement, c'est mal fait. et on va demander à quelqu'un d'extérieur de le refaire à votre place parce que vous êtes vraiment trop incompétent. Là, y a vraiment une problématique aussi de considération vis-à-vis de ces députés dont on ne peut pas dire autre chose que ce sont véritablement, en tout cas qui sont considérés comme ça par l'exécutif, comme des députés Playmobil, juste là pour voter des lois.
On parle de la seconde crise maintenant, peut-être la plus importante parce qu'elle va se prolonger dans la durée. Gérald Darmanin, après cette nouvelle vidéo de violence policière. Restez avec nous, 18h38.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h39, le débat des grandes voix du vendredi suite, avec ce soir à mes côtés Barbara Lefebvre, Elsa Conessa du journal Les Échos et Guillaume Tabar, rédacteur en chef éditorialiste politique au Figaro. Alors on s'intéresse donc à la réponse du gouvernement après cette vidéo de passage à tabac de ce producteur. Ça s'est passé dans le 17e arrondissement. Vous avez sans doute vu la vidéo. Elle a été vue des millions de fois et elle est passée évidemment hier dans les journaux télévisés. Voici ce qu'a dit hier le ministre Darmanin sur le plateau du 20h de France 2.
Je voudrais dire aux policiers et aux gendarmes que moi je les soutiens. Mais lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent être punis par la justice.
Quand il y a des gens qui déconnent, a dit le ministre de l'Intérieur, colère ce matin sur l'antenne de BFM TV de l'avocate du producteur Michel. Écoutez.
S'il considère que les policiers ont déconné, permettez-moi de dire que lui, excusez-moi la trivialité de l'expression, j'utilise ces mots de la même manière, ses propos sont dégueulasses.
Voilà, ses propos sont dégueulasses. Guillaume Tabar, réaction.
Oui, je pense qu'on fait un peu un mauvais procès sur... sémantique, je veux dire que Gérald Darmanin, et c'est pas un hasard, choisit de parler comme on parle entre nous.
Oui.
Bon, donc il emploie des gros mots, appelons ça comme ça. Bon, il dit déconner.
Mais pardon, déconner, on dit ça d'un gamin de 14 ans qui fait sauter un pétard dans une boîte aux lettres, non ?
Pas que. Déconner, c'est quand même fort. Je pense. Enfin, c'est pas vraiment un compliment qui est fait. Je pense qu'en disant ça, il ne voulait pas minorer ce qui a été fait par les policiers qu'on fait ça dans le 7e. Bon, voilà, donc, après, est-ce que c'est le bon mot ? Ça, c'est son problème. Mais,
est-ce que c'est une faute de ne pas avoir eu un mot pour la victime ?
Écoutez, pour être franc, je n'ai pas entendu toutes ces déclarations. Je ne sais pas s'il n'a pas eu de mots pour la victime. Moi, ce que j'entends aussi...
En tout cas, hier soir, sur le plateau du 20h de France 2, c'était un peu la grande explication.
Oui,
il n'a pas parlé de la victime.
En tout cas, il y a une condamnation plus qu'explicite quand même de ce qui était fait, et ce qui était normal, ce qui était nécessaire, ce qui était attendu. Je crois qu'il ne faut pas non plus oublier, parce que le point de départ du débat et de cette fameuse article 24, c'est ça aussi, c'est aussi de parler du traumatisme vécu et subi au quotidien par des policiers. Le fait qu'il y ait cet acte absolument abject commis... ne supprime pas non plus les caillassages de voitures de flics, le fait que des policiers qui ont peur d'être pris à partie, y compris jusque chez eux, et que le point de départ de ce fameux article de 24, c'était de les protéger contre ça.
Mais vous comprenez bien que ça porte préjudice aussi aux policiers, ces actes-là.
Précisément, moi je ne pense pas qu'ils ont déconné.
Donc, il
n'y
a pas de
hiérarchie
de l'émotion à faire, je pense,
non, dans cette affaire-là. Je pense qu'ils n'ont pas déconné, ils ont déshonoré précisément cette immense institution, et cette institution fondamentale, non pas seulement d'une république, mais d'une nation, qui est l'institution de la police, du maintien de l'ordre. Donc, effectivement, d'abord, le terme me gêne, cette vulgarité dans la bouche d'un ministre, personnellement, ça me dérange, en tant qu'enseignante notamment, où il faut une certaine exemplarité des personnes publiques, me semble-t-il. On n'accepterait pas, par exemple, qu'un enseignant parle comme ça devant ses élèves, donc encore moins un ministre devant le peuple souverain. Donc déjà, on avait eu la drogue, c'est de la merde, maintenant on a les flics qui déconnent. Ce serait déjà bien de corriger un petit peu le vocabulaire et surtout d'employer les bons termes. Or, je crois que ces policiers-là ont déshonoré l'uniforme, et que c'était ce mot-là qui aurait mieux convenu qu'un terme effectivement un peu galvaudé. Par ailleurs, précisément, il faut défendre nos policiers qui travaillent dans des conditions lamentables depuis des années, avec une sous-formation, des sous-effectifs, et parallèlement des missions de plus en plus difficiles. Donc effectivement, il faut prendre soin de nos policiers, et il faut faire en sorte, aujourd'hui, qu'ils puissent travailler dans des conditions dignes et qu'ils les honorent eux aussi.
Mais ça pose quand même la question du fonctionnement interne de la police. Y a-t-il un problème structurel de violence, de dérapage, de racisme ? Elles connaissent ça ?
Alors moi, je ne suis vraiment pas du tout bien placée pour répondre à cette question. Je pense que c'est très difficile. On est vraiment souvent pris en otage par les vidéos qui circulent dans un sens ou dans l'autre. Moi, je ne suis pas enquêtrice de terrain. Je ne vais pas ni dans les banlieues.
Mais vous êtes une citoyenne.
Oui, mais c'est difficile. En fait, c'est difficile de ne pas réagir de façon affective. Dire, bon, la vidéo qui a été diffusée hier, c'est évident, là, il n'y a pas débat. Je veux dire, je pense qu'elle est longue, elle est complète. Voilà, je veux dire, il faut qu'il y ait une enquête. Mais globalement, je pense que la leçon à tirer de ça, c'est quand même qu'il y a eu plus qu'une exaction. Il y a eu un dérapage inacceptable. Moi, j'ai vécu 4 ans aux États-Unis. J'ai eu l'impression, en regardant cette vidéo, de voir ce que je voyais quasiment toutes les semaines quand j'étais là-bas. Après, est-ce qu'il y a un problème systémique de violence dans la police ? Je pense que c'est une question qui est très complexe. D'ailleurs, pour revenir au débat sur lequel on était il y a quelques minutes, cet article 24 qui vise à protéger les policiers, moi, je n'ai pas entendu dans le débat actuel de données sur en fait, combien de policiers ont été menacés par la diffusion d'images, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, d'images malveillantes, puisque c'est ça dont il est question. On parle effectivement beaucoup des violences dont les policiers sont victimes aussi, etc. Ça, certes, je veux dire, personne ne conteste ça, mais est-ce que la diffusion des images a permis l'identification de beaucoup de policiers qui ont ensuite été menacés à titre personnel chez eux. Enfin, je veux dire, c'est quand même de ça dont il est question dans la loi. Ça, je n'ai pas eu l'impression que le constat ait été fait de façon, ait été établi avec des faits, avec des nombres, avec des chiffres.
Parce que ce qui reprochait aussi à Gérald Darmanin, c'est qu'il adopte une stratégie très offensive, défendant coûte que coûte les forces de l'ordre. Dans la majorité, certains disent, on a l'impression d'avoir un représentant syndical de la police nationale en face de nous quand il défend les policiers. Il est dans son rôle, évidemment, mais on peut aussi regarder l'institution policière, parfois avec un esprit critique, Guillaume Tabar.
Bien sûr, mais je pense qu'il le fait aussi. Il y a quand même des outils internes.
Il ne s'agit pas, évidemment, d'être pour ou contre la police. Tout le monde est pour la police.
Il y a l'IGPN qui fait son travail. Après, il y a un débat qui est légitime sur savoir si ce qu'il faut que l'instance de contrôle soit quelque chose d'interne à la police ou quelque chose d'externe.
Vous savez qu'en Angleterre, c'est une commission citoyenne, par exemple, l'équivalent du GPN.
C'est une vraie question, elle est sur la table, il faut qu'elle soit examinée et éventuellement réglée. Moi, je suis toujours assez mal à l'aise lorsque l'on parle d'une sorte de racisme structurel au sein de la police. Oui, à l'évidence, il y a des paroles, il y a des gestes racistes et qui sont donc inexcusables et condamnables et qui doivent être sanctionnés, comme dans toute catégorie professionnelle. Et il faut quand même aussi rappeler...
Sauf que quand on est policier, on est plus irréprochable que les autres, normalement, parce qu'on est garant les policiers, de l'ordre public.
Mais il faut aussi rappeler en même temps que je pense que la police est l'un des corps, notamment de corps de la fonction publique, où il y a le plus précisément de mixité. Et souvenez-vous même de ces manifestations supposées antiracistes, où des manifestants prenaient à partie des policiers noirs en les traitant de collabos, parce qu'en tant que noir, ils n'auraient pas dû être de ce côté-là. Or, précisément, c'est l'honneur de la police aussi d'être le reflet de cette diversité de la société.
C'est vrai qu'on ne va pas faire l'inventaire à la Prévert, mais en peu de temps, il y a eu les éborgnés pendant les manifs gilets jaunes. Il y a eu la condamnation du Conseil d'Europe qui a mis au banc la France sur la proportionnalité de l'usage de la violence. Il y a eu l'histoire de ce groupe Facebook aussi, vous vous souvenez, avec 8000 membres issus pour beaucoup de la police avec des propos racistes. Il y a eu l'histoire de Cédric Chouviat, il y a eu le récit de ce journaliste infiltré, il y a eu les expulsions de la place de la République. Voilà, donc c'est vrai que ça fait beaucoup en peu de temps.
Je pense qu'il faut quand même essayer d'être prudent et de ne pas tomber non plus dans une américanisation des débats au sujet de la police française. La police française, elle a ses défauts, elle a aussi sa propre histoire, et la société française aussi a sa propre histoire, et ce n'est pas la même que la société américaine. On a vu précisément, après l'assassinat de George Floyd, la tentative par le petit groupe autour d'Assa Traoré de faire des parallèles qui étaient injustifiés et inqualifiables. Or, précisément, ce qui est intéressant et important dans l'affaire aujourd'hui de Michel Zecler, c'est que Michel Zecler, lui, il ne fait pas ces confusions-là. Et que lui, il ne tient pas précisément un discours sur un racisme systémique, sur des policiers qui seraient tous racistes. Au contraire, lui, il dit...
Et pourtant,
j'ai confiance.
Il en a été victime du racisme dans son fait.
Exactement. Et il dit, j'ai été frappé parce que je suis noir et on m'a traité de sale nègre. Et d'ailleurs, les policiers sont incriminés sur ce motif. Et lui a dit, ces gens-là, pour moi, ce ne sont pas des policiers parce que j'ai des amis policiers, je respecte la police, je ne les considère pas comme des policiers à part entière. Donc lui n'est pas, justement, dans ce discours-là, ni victimaire, ni d'accusation de racisme systémique. Et je crois que sa parole, c'est une parole de dignité qu'il faut entendre plutôt que de tomber dans ce qu'on a entendu au moment de mai-juin autour de ces groupes militants indigénistes autour de Youssef Brakni et d'Assa Traoré qui sont des gens qui veulent fracturer la société française et précisément essayer de faire des parallèles qui n'ont pas de raison d'être.
18h48, vous restez avec nous. On continue d'en parler avec les grandes voix du vendredi. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h50, le débat des grandes voix du vendredi avec ce soir à mes côtés toujours l'enseignante essayiste Barbara Lefebvre, Elsa Conessa, rédactrice en chef aux Échos, et Guillaume Tabar, rédacteur en chef éditorialiste politique au Figaro. Et on continue évidemment ce soir de parler de ce débat sur la violence policière après cette vidéo de passage à tabac d'un producteur noir par trois policiers. Je voudrais vous faire écouter les uns et les autres à ce que disait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le 29 juillet dernier.
Quand j'entends le mot « violence policière », moi, personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. Après, elle doit le faire de manière proportionnelle, elle doit le faire de manière encadrée, que quelques personnes le fassent en dehors des règles déontologiques, de la sanction doit être immédiate.
Voilà. J'insiste un peu, on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est vrai qu'on a toujours le sentiment en France qu'on n'a pas le droit d'en parler, que c'est un peu tabou, Guillaume Tabar, sur cette question des violences policières, ou non d'ailleurs. Et certains disent aussi que le ministre Darmanin a renforcé ce sentiment d'impunité des policiers avec ce genre de prise de parole.
Non, je crois qu'il n'y a aucun tabou, et même la meilleure preuve, et aussi c'est une réponse à tous ceux qui depuis quelques temps disent que nous ne sommes plus vraiment en démocratie, on a le droit de dire ça, et aujourd'hui, dans les médias et partout, des gens qui s'emportent violemment et qui dénoncent ce qu'ils appellent les violences policières. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun tabou. Bon, et par définition, une information, c'est une information. Il n'y a pas ni à la minorer, ni à la survaloriser, il y a à la traiter pour ce qu'elle est, dans son caractère factuel, et donc ensuite, avec tout ce que ça peut avoir comme charge positive ou négative, ce que ça peut susciter comme indignation, comme révolte, etc.
Bon,
c'est une chose. Mais après, il faut élargir on ne peut pas non plus juger d'un corps entier sur l'attitude de quelques-uns, même s'il faut être intraitable sur la dénonciation de cela.
Est-ce que ça fragilise en tout cas le ministre de l'Intérieur, ces différents épisodes ? Elle, ça connaît ça.
Je crois que c'est difficile d'affirmer qu'il n'est pas fragilisé, hein, quand même. Enfin, ce qui me frappe, moi, c'est effectivement cette impossibilité qu'il a, enfin, que le gouvernement a à sortir de ce côté binaire entre on soutient les flics ou on parle que des violences policières. Je pense que c'est une difficulté qui sera résolue que par Macron lui-même. Enfin, on ne l'a pas tellement entendu sur ces questions-là, mais on a l'impression qu'effectivement, il n'y a pas de milieu, ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, et puis d'un côté, on a un président de la République qui appelle à longueur de discours, à la bienveillance, au respect des valeurs. Alors évidemment, si de l'autre côté, on a certains policiers qui se sentent tout puissants, ça brouille le message. Et puis une nouvelle ligne de fracture aussi, Barbara Lefèvre, avec Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui hier, sur LCI, disait « s'il n'y avait pas eu de vidéo, on n'aurait pas connu l'affaire ». Voilà que M. Dupond-Moretti remet une pièce pour relancer la polémique avec le ministre de l'Intérieur.
Oui, on sent là la concurrence entre ces deux ministres. C'est comme le jeu, vous savez, où quand vous tapez avec le maillet sur un personnage, il y a l'autre qui sort. Donc là, effectivement, M. Darmanin est en grande difficulté. Donc M. Dupond-Moretti est censé représenter cette « et en même temps ». En fait, là, on a le couple du « et en même temps ».
Oui.
C'est-à-dire, on a Gérald Darmanin qui séduit l'électorat de droite, et puis on a Dupond-Moretti qui séduit un électorat soi-disant de gauche, et cette espèce de « en même temps » qui ne veut rien dire, parce qu'en réalité, Dupond-Moretti va être quand même dans la solidarité gouvernementale, et Gérald Darmanin, à un moment ou à un autre, sera obligé d'avaler son chapeau. Donc de toute façon, Emmanuel Macron aura gagné, il aura remis encore une fois la balle au centre, mais à travers, sans doute peut-être d'ailleurs, une prise de parole autoritaire, encore une fois, et ça viendra de lui, et c'est lui qui sifflera la fin de partie. Donc on revient à ce que moi je considère être un centrisme autoritaire qui finalement se révèle assez dangereux.
Match nul à l'arrivée, Guillaume Tabar ?
Non, d'abord, sur le ministre de l'Intérieur contre le ministre de la Justice, c'est pas le macronisme, c'est pas le en même temps macronisme, oui. C'est une figure de style de consubstantiel de la Ve République. On a vu ça, Pasqua Maignery, Guigou Chevènement, Sarkozy Perben. Bon, ça, c'est un classique. Ensuite, être vainqueur, c'est pas remettre la balle au centre, parce qu'il y a un autre acteur quand même qu'il ne faut pas oublier dans tout ce débat-là, c'est l'opinion. Bon, l'opinion, elle n'attend pas d'Emmanuel Macron qu'il fasse le juste milieu entre Darmanin et Dupond-Moretti, pour faire bref. Elle attend d'Emmanuel Macron, on a le sentiment que sur la question d'autorité, il y a une attente d'une réponse qui soit assez forte.
Oui.
Et je pense que le centre de gravité, si on veut incarner les choses, que le centre de gravité de l'opinion, il est aujourd'hui plus du côté de Darmanin que du côté de Dupond-Moretti. Alors ensuite, il se prend les pieds dans le tapis avec l'article 24.
Autant,
donc il y a des ratés de méthode.
Mais
je pense qu'il lui-même commettrait une erreur, et pour l'instant, en tout cas, il ne va pas sur ce terrain-là, de croire qu'il pourrait améliorer son image en renonçant à sa posture sécuritaire, pour faire bref.
Alors, coup de griffe ou coup de cœur pour terminer ? Il nous reste quelques secondes, Elsa.
Alors, plutôt coup de cœur, hein, je voulais vous parler de l'Allemagne, en fait, ce soir, et d'une décision du gouvernement d'Angela Merkel qui est passée un peu inaperçue ici. En fait, il s'agit de la mise en place de quotas de femmes à la tête des entreprises allemandes. Hein. Vous savez, il y a déjà des quotas de femmes dans les conseils d'administration dans plusieurs pays. Mais l'Allemagne va plus loin. C'est le premier pays à le faire avec la Suisse, à vouloir imposer la présence de femmes dans les directoires des entreprises, c'est-à-dire vraiment dans les instances de dirigeantes. Alors, si la loi est adoptée, eh bien, toutes les entreprises de plus de 2000 salariés devront avoir au moins une femme dans leur état-major. Alors, il faut savoir que les Allemands sont très en retard hein, au sein du monde occidental, malgré l'incroyable longévité de la chancelière. On a seulement 12% de femmes dans les comités exécutifs des entreprises allemandes, contre quasiment 30% aux États-Unis. Alors, évidemment, les patrons allemands crient à l'ingérence. Hein, ils ne sont pas ravis par la perspective de ce texte. Mais le problème, c'est que, en l'absence de quotas, on n'a aucune raison que la situation change. En Allemagne, toutes les mesures qui étaient simplement incitatives ont échoué. Et la féminisation des conseils d'administration n'a pas permis de favoriser la féminisation.
Merci, Elsa. Petit coup de cœur, il ne nous reste que quelques
secondes. Oui, juste
que
pour dire que samedi, il va y avoir une manifestation, donc Place de la République, 14h, sur justement cette question de l'article 24.
Oui.
Et c'est le jour aussi où les commerçants rouvrent. Il va y avoir ça d'ailleurs dans beaucoup d'autres villes en France. Donc j'espère, en tout cas pour Paris et pour le reste des villes, que les manifestants vont se comporter correctement et aussi que la police, et à Paris en particulier le préfet allemand, vont aussi se comporter correctement pour que la manifestation se déroule correctement, mais aussi pour que nos commerçants puissent reprendre enfin le travail sans risquer des dégâts et des casses.
Guillaume.
Alors un coup de griffe pour la gestion par Jean Castex du déconfinement concernant les cultes. On parlait des commerçants et la manière dont, alors que le président de la République lui-même voulait un geste un peu de bon sens pour mettre des règles qui soient communes à tous les acteurs de la vie publique, cette manière qu'il a eue de se braquer et d'imposer une norme considérée par tout le monde, y compris par le président, comme n'étant pas réaliste, fait un sentiment un peu d'un acte de, on va dire quoi, d'autoritarisme et surtout qui recrée un objet de conflit au lieu de parvenir à l'apaisement.
Merci Guillaume, merci à tous les trois et toutes les deux, et bon week-end. 18h57, on se retrouve dans un instant pour le journal, à tout de suite.